Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du Grand Dialogue de ce mercredi, la situation des Maliens de l'extérieur, une situation qui préoccupe à plus d'un titre, avec un Malien décédé le 19 juillet dernier à Paris dans des circonstances non encore élucidées après avoir été interpellé par la police. Un autre Malien du nom de Moussa Keïta expulsé de la France pour, je cite, appartenance à la mouvance islamiste pro-djihadiste. 800 Maliens expulsés de divers pays entre janvier et mars 2016, des centaines de Maliens qui attendent d'être rapatriés d'Algérie. La situation des Maliens de l'extérieur donne quelques soucis. Pourquoi tant de Maliens sont ainsi expulsés de tel ou tel autre pays? Dans quelles conditions retournent-ils au bercail? Comment se fait leur réinsertion socio-professionnelle? Qui fait l'État? Qui fait donc l'État malien pour secourir les Maliens en difficulté hors du pays? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous allons tenter de répondre avec nos invités qui sont. Nous avons d'abord en premier lieu Ismaël Samasekou, qui est donc le secrétaire général de l'association et de tout travail d'unité. Monsieur Samasekou, bonsoir. Nous avons deux invités en ligne. Le premier s'appelle Ousmane Diarra. Il est le président de l'association malienne des expulsés. Et le second, Sadio Diakité, qui est donc le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Il sera également en ligne. À la présentation, Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. La situation des Maliens de l'extérieur est un sujet qui s'est retrouvé plus d'une fois à la une de l'actualité depuis le début de l'année. Avec les nombreuses difficultés signalées, ça et là, peut-on dire que leur situation, la situation des Maliens de l'extérieur, s'est dégradée de façon générale ces derniers temps? Alors, c'est la question que j'adresse à vous, Ismaël Samasekou, le secrétaire général de l'association Retour Travail Dignité.
Bonsoir tout le monde. Et je m'appelle Ismaël Samasekou et je suis le secrétaire général de l'ARTD. L'ARTD, c'est une association d'ex-migrants et qui a vu le jour le 17 décembre 2005. Donc, c'est une association composée des ex-migrants de Libye, du Maroc et de l'Algérie.
Alors, c'est des ex-migrants qui sont déjà sur place au pays, ce qui n'empêche que vous vous intéressez vraiment beaucoup, assez près quand même des problèmes des Maliens de l'extérieur. Alors, la situation des Maliens de l'extérieur aujourd'hui, comment est-ce que vous la trouvez?
Bon, c'est vraiment, c'est très déplorable. Parce que les gens vont penser que peut-être c'est la première avec l'expulsion ou bien avec le rapatriement des 500 personnes. Et sinon, on a eu à rencontrer beaucoup de cas en 2010, à commencer par en 2008, il y avait 420 Maliens qui étaient emprisonnés en Libye. Donc, grâce à notre intervention, parce que nous, quand on a appris l'information comme quoi, il y avait 400. Je vais vous raconter pour une petite histoire, quoi.
Allez-y.
Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens vont penser que les 500 Maliens là, donc, c'est, donc si, les choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc, en 2008, il y avait 420 Maliens qui étaient emprisonnés en Libye. Je ne sais pas comment ils ont eu notre numéro. On nous a informé comme quoi il y avait 420 Maliens qui sont emprisonnés en Libye. Nous, on a fait des démarches auprès du ministère des Maliens de l'Extérieur. Donc, pour qu'ils prennent des dispositifs pour non seulement pour leur libération et leur rapatriement pour le pays.
Est-ce qu'on a l'habitude de vous appeler, de vous contacter à partir d'autres pays?
Oui. Parce que il y a un prisonnier qui nous a dit qu'ils ont écrit le numéro de notre chargé de communication sur un mur.
Ça, c'est en Libye toujours.
Ça, c'est en Libye. Voilà, parce qu'il y a notre chargé de communication qui a son numéro avec eux. Ils ont écrit sur le mur. Donc, à chaque fois qu'il y a un emprisonnement, donc, les détenus essayent de nous appeler. Donc, nous, on n'a pas d'autre force. On fait des démarches. Comme l'a dit Aimé Césaire, notre bouche, c'est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Donc, on fait des démarches auprès d'eux, donc, auprès du ministère des Maliens de l'Extérieur, pour qu'ils prennent des dispositions pour le rapatriement de ces jeunes migrants. Donc, ces nouvelles, vraiment, ça ne m'a pas surpris, parce que vous savez, aujourd'hui, nos ambassades ne s'intéresse pas à nos compatriotes.
Alors, voilà. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect. Nous allons joindre à présent Ousmane Diarra, qui est le président de l'association malienne des expulsés. Monsieur Diarra, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, dites-nous, la situation des Maliens de l'extérieur aujourd'hui, vous, comment est-ce que vous l'appréciez?
Alors, la situation des Maliens de l'extérieur, vraiment, comme M. Samasekou vient de le dire, est très déplorable, parce que, vu les conditions de séjour de nos compatriotes, et d'abord dans le continent africain, et si on part plus loin dans le continent européen, vous verrez que la situation est vraiment très dramatique et très déplorable.
Alors, nous allons tenter de joindre à présent notre troisième invité. Il est en ligne, il s'appelle Sadio Diakité, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Monsieur Diakité, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous nous intéressons pour l'instant à la situation des Maliens de l'extérieur. Qu'en dites-vous?
Alors, merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. Comme vous le savez, la situation des Maliens de l'extérieur, elle est catastrophique. Catastrophique à tous les niveaux, qu'on soit en Afrique ou qu'on soit en Europe, en Asie ou même aux États-Unis. C'est la même chose. La situation, aujourd'hui, ça ne date pas même d'aujourd'hui.
En quoi est-elle catastrophique?
Elle est catastrophique à plusieurs niveaux. Déjà, quand on comprend comment nos compatriotes arrivent en Europe avec la traversée, que ce soit en mer ou sur les voies routières, on a dénombré d'énormes morts cette année. Et comme vous le savez, ce n'est pas notre première fois de faire cette émission-là par rapport à la situation des Maliens de l'extérieur. Mais dans les pays d'accueil, quand ils arrivent en Europe, notamment en France, on sait aujourd'hui que la France même traverse une crise économique que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc la situation, je vous assure, même ce matin, j'ai eu les larmes aux yeux de la situation des Maliens que j'ai vue dans une situation très critique. Non seulement son état de santé ne le permet pas, il est malade, et en même temps, il ne sait pas où aller. Et je lui ai posé la question, il m'a répondu, je viens de Niro du Sahel. Je viens du Niro du Sahel, c'est un certain Aïdra. Il est malade, il est allé à l'hôpital, il n'a pas pu se soigner, ils l'ont fait sortir. Aujourd'hui, il est en train d'être entre le foyer, il n'arrive même plus à avoir...
N'y a-t-il pas possibilité de le faire rapatrier?
Ben, la possibilité, vous savez, c'est très délicat. L'État malien, peut-être qu'on en viendra, l'État malien doit assister tous ses fils et filles partout où il se trouve. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Quand vous vous intéressez aux autorités compétentes, que ce soit au niveau du consulat ou au niveau des ambassades, vous connaissez déjà la réponse. La réponse, c'est qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Il n'y a pas que ces jeunes Aïdra qui est dans cette situation-là. Il y a plein de Maliens en France aujourd'hui qui ont à peine un endroit pour dormir. Ce ne reste que pour dormir. Il n'y en a plus. Il y a une solidarité dans les foyers. On n'a pas besoin de demander de quelle région ou de quel village tu viens. Tu viens dans les foyers, tu es chez toi, c'est le Mali.
Ont-ils envie de retourner au pays?
Non, ils n'ont pas envie. Vous voyez, c'est tout le drame de l'immigration. Une fois que vous quittez le pays et que vous venez soit en Europe ou en Asie, et retourner dans des situations autres que dans de bonnes conditions, c'est pris comme un échec. Échec pour toi, échec pour tes parents. Donc voilà un peu la situation que vivent les Maliens à l'extérieur du Mali.
Un échec qu'on trouve humiliant donc. Alors, devons signaler que justement, on aurait souhaité avoir la réaction des autorités publiques par rapport à cette question, elles qui sont d'ailleurs interpellées, mais c'est donc l'occasion de signaler que nous avons bel et bien invité le ministère des Maliens de l'extérieur, et le ministère s'était même engagé à nous envoyer quelqu'un. Mais à la dernière minute, on nous a signalé quand même un empêchement. C'est donc regrettable qu'à ce débat ne prenne pas part un représentant du ministère des Maliens de l'extérieur. Après cette question, qu'est-ce qui est à l'origine des problèmes que connaissent les Maliens de l'extérieur? Je pose la question à vous, Ismaël Samasekou.
Les problèmes des Maliens de l'extérieur. Oui, les problèmes sont très nombreux. Parce que vous parlez en général ou bien de l'Algérie seulement?
De façon générale, pas de l'Algérie.
Oui, de façon générale. Donc, bon, c'est pas facile parce que les gens pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado ou bien peut-être le pays maghrébin vivent mieux que nous. Donc, je commence d'abord par l'Algérie parce qu'il y a une chose que les gens ne vous disent pas. Et parce que après ce que j'aurais appris, la cause principale même de la volonté de nos migrants maliens de retourner au pays, parce que paraît-il que les patrons de nos compatriotes, c'est le refus de payer les salaires donc des migrants maliens donc qui sont en Algérie.
Ça c'est le cas de l'Algérie.
Voilà, pour les 500 migrants qui sont retournés tout récemment.
Non, mais s'il n'y a pas que l'Algérie, dans d'autres pays les Maliens ont des problèmes. Alors finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que les Maliens aient tant de problèmes à l'extérieur?
Oui, parce que je me demande, c'est la négligence. C'est la négligence
de la part des intéressés ou bien
de c'est la négligence de nos ambassades ou bien le désintéressement de nos ambassades. Parce qu'autrefois, les Maliens étaient respectés à l'étranger par son comportement et puis par son amour du travail. Mais aujourd'hui, vraiment, les Maliens ne sont pas respectés. D'abord, ça commence par le délaissement, le fait que nos ambassades ne s'intéressent pas vraiment à leurs compatriotes dans les pays étrangers. Et puis aussi, il y a le fait aussi... il y a beaucoup d'Africains, surtout de nos sous-régions, qui détiennent le passeport malien. Vraiment, ils sont impliqués dans des trafics de drogue, et dans beaucoup, beaucoup de choses. Bon, quand on les arrête, on les considère aussi comme des Maliens. Donc, tous ces problèmes-là recrutent, tous ces problèmes-là jouent sur nos compatriotes.
Sur leur réputation.
Voilà, sur leur réputation. Mm-hmm. Donc, vous voyez. Et puis aussi, les gens pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas et vraiment, ils n'ont même pas à subvenir à leurs besoins primordiaux. Ils ont des problèmes même à trouver souvent à manger, ils dorment dehors. Donc, il y a beaucoup de problèmes là-bas.
Ousmane Diarra qui est toujours en ligne. Dites-nous, Monsieur Diarra, par quoi est-ce que vous expliquez le fait que les Maliens, dans d'autres pays, à l'extérieur, donc, ont tant de problèmes?
Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, si on parle de la migration, tout le monde sait qu'en Afrique subsaharienne, les Maliens sont des personnes ciblées, des candidats à l'immigration, c'est dû à plusieurs causes. Et on parle de la pauvreté, on parle de l'emploi, on parle de plein de choses. Mais ce qui est à noter, il faut savoir qu'aujourd'hui, la migration d'aujourd'hui et la migration d'avant n'est pas la même chose. Les tendances ont bien changé et aujourd'hui l'Europe ne veut pas que les Africains, quand même les subsahariens arrivent dans leur continent. Et le même moment, l'Europe est en train de mettre des pressions sur les États africains pour freiner encore même la migration intra-africaine. Donc l'enjeu est très grave et la politique de ces migrations actuelles vraiment, c'est complexe et très, très complexe et compliqué. Alors, tantôt, les gens partent. C'est pour reprendre la vie, c'est pour mieux vivre ailleurs. Alors, de ce fait, c'est déjà comme une cause, un phénomène dramatique, criminel, et on ne sait pas comment qualifier, la qualification n'est pas là. Donc, moi, à mon entendement, aujourd'hui, on parle les 500 Maliens qui sont venus. La semaine passée, il y avait 110 Maliens rapatriés de la Libye qui sont retournés volontairement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants emprisonnés en France, en Allemagne, en Belgique, en Libye, en Angola. Et ce sont des Maliens. Alors, les autorités maliennes doivent prendre tous les dispositifs pour mieux garder ces Maliens, pour bien sauvegarder leurs biens et pour que ces Maliens puissent être dans la bonne condition. Vous voyez, moi je vous dis, je suis un ancien migrant expulsé il y a 20 ans. Je suis expulsé à l'époque, c'est pour cela qu'il a donné même la création de notre organisation qui est l'AME. Nous sommes tous des anciens migrants expulsés de la France, de l'Angola, de l'Arabie Saoudite, le rapatriement volontaire des Maliens de Libéria. Donc, on se retrouvait à l'époque, il n'y avait pas le ministère des Maliens de l'extérieur. Mais moi, il y avait le Haut Conseil et la délégation générale des Maliens de l'extérieur qui n'ont pas pu encadrer ces Maliens. Aujourd'hui, moi, mon équipe était au rendez-vous, à la rencontre des 500 Maliens, vous verrez qu'il y a des gens qui sont sérieusement malades.
Alors Ousmane Diarra, nous allons vous retrouver dans un instant, la suite de cette émission, dans quelques secondes.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La condition des Maliens de l'extérieur, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce jeudi. Nous étions donc en train d'essayer de comprendre les raisons qui font que tant de Maliens souffrent à l'extérieur. À présent, nous allons nous intéresser au cas de la France. Sadio Diakité, le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France, est donc en ligne. Dites-nous, monsieur Diakité, chez vous là-bas en France, peut-on dire que les conditions de Maliens qui sont en France, ce sont détérioré, dégradé par rapport au passé.
Alors, merci de m'avoir donné la parole. Je pense que depuis le temps, les conditions des Maliens, on peut résumer en quelques phrases. Hein. Donc, les Maliens de France, en général, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème avec les autorités françaises en tant que telles. Parce que les Maliens sont reconnus des gens sérieux, travailleurs. Et n'importe quel chef d'entreprise ou patron que vous prenez, s'il travaille avec un Malien, il vous dira que les Maliens sont censurés dans leur travail et ne sont pas impliqués dans les trafics ou autres. Et ça, c'est de façon générale. Il peut y avoir des cas exceptionnels comme dans toute société. Mais le gros problème des Maliens de France, c'est au niveau de nous-mêmes, au niveau des autorités maliennes. Dans un premier temps, au niveau de nos consulats, au niveau de nos ambassades. Et quand on prend, par exemple, la France, un pays comme la France, et qu'on trouve qu'un seul consulat pour des centaines de milliers de Maliens, les gens souffrent beaucoup à ce niveau-là. Mais avec la mise en place, par exemple, des passeports biométriques aujourd'hui, vous partez au consulat du Mali, vous trouvez que les gens sont en train de perdre leur carte de séjour. Ils se sont battus pendant des dizaines d'années pour avoir cette carte.
Monsieur Diakité, en votre qualité de secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France, est-ce que vous n'aurez pas pu interpeller les autorités par rapport à ce problème?
On a bel et bien interpellé les différents responsables. On a tenu plusieurs réunions avec tous les consuls qui sont passés. On a eu des réunions d'échange de travail. Heureusement, on peut entre guillemets aujourd'hui, le consul qui est là, il se bat nuit et jour pour l'amélioration de cette condition-là, mais ça reste encore insuffisant parce que nous avons interpellé pas plus tard qu'au mois d'octobre passé, quand le président de la République est passé, nous l'avons interpellé par rapport au consulat, à la déconcentration même du consulat. Parce que des gens qui quittent Marseille, Lyon, Grenoble pour venir simplement pour déposer une carte d'identité consulaire, vous voyez ce que ça fait, ils perdent des journées, ils perdent leur travail, ils perdent leur temps. Donc ça, nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Mais honnêtement, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Les gens sont en train de perdre leur carte de séjour à cause des problèmes des papiers administratifs maliens. Ça, c'est un point crucial aujourd'hui que les Maliens de France sont en train de vivre. Sans compter, les choses ont changé en France. Il y a dans les années 70-80, tous les Maliens, vous êtes ensemble dans les foyers. Aujourd'hui, avec la nouvelle stratégie française, ils ont déplacé les foyers. Avant, c'était des grandes chambres où vous pouvez trouver 4 ou 3 personnes dans une chambre. Et un jeune qui vient, il n'a pas de travail, il est à côté de son frère ou de son cousin. Aujourd'hui, cette situation est bannie en France. Chacun est dans sa chambre. C'est des studios, chacun dans sa chambre. Ils n'autorisent même plus que quelqu'un soit avec un frère, même ton propre fils, quand il vient, tu ne peux pas l'héberger chez toi. Donc vous voyez un peu, tout ça, c'est les conditions aujourd'hui que les Maliens de France sont en train de vivre. Et nous avons lutté, nous avons mené des luttes au niveau des responsables des foyers pour les expliquer les démarches à faire, pour les faire comprendre qu'on ne peut pas mettre son fils ou son cousin à la porte, soi-disant que, voilà. Souvent, on respecte la loi française, mais souvent on est obligé, nous sommes là aussi avec une culture, que nous voulons aussi préserver cette culture, c'est-à-dire l'entraide et la solidarité entre nous. Donc il y a tous ces problèmes-là aujourd'hui dans la communauté malienne en France, sans compter, là, nous sommes aujourd'hui avec la deuxième, troisième génération, les enfants qui sont nés ici, d'où aussi le problème de l'éducation d'emplois pour ces jeunes-là, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, on en parlera, et soit on dit c'est des franco-maliens, et si on rayonne au sommet, on est français, et si on fait des bêtises, ben on devient automatiquement malien. Donc, comme vous voyez le cas de certains jeunes aujourd'hui, et qui soit du cas de Moussa ou même du cas de Adama que nous connaissons aujourd'hui.
Ismaël Samba Sekou de l'association Retour, Travail et Dignité. 800 Maliens, 800 Maliens expulsés alors, ces jours-ci, en fait, disons, ils ont été expulsés de janvier à mars 2016. Des centaines de Maliens qui attendent d'être rapatriés d'Algérie. Alors, c'est une situation qui inquiète, non?
Oui. Non, c'est vraiment déplorable. C'est une situation qui inquiète. Et il faudrait que vraiment le gouvernement malien. Vraiment essayer de mettre en place un dispositif pour maintenir les jeunes ici. Parce que jusqu'à présent, les jeunes, les candidats potentiels à l'immigration irrégulière sont en train de partir. Donc il faudrait que le gouvernement essaye de mettre en place un dispositif pour les maintenir en créant des emplois. Parce que la cause principale même de l'immigration, c'est le chômage. Et un jeune diplômé qui a son diplôme et qui n'arrive pas à avoir un travail, donc tu es obligé vraiment de partir. Bon, les questions des visas aussi, c'est très difficile. Si tu n'arrives pas à avoir un visa, donc tu es obligé d'emprunter la voie illégale pour aller à l'étranger. Donc vraiment, c'est vraiment très déplorable.
Alors, maintenant, nous allons nous tourner du côté de Ousmane Diarra, représentant de l'association malienne des expulsés. Alors, M. Diarra, on l'a dit, il y a eu 800 Maliens expulsés de janvier à mars 2016. Il y a des centaines qui attendent en Algérie pour être rapatriés. On doit signaler aussi que, selon une source algérienne, il y a plus de 1000 Maliens en Algérie qui sont concernés par ces dossiers, donc le rapatriement. Alors, vous, en tant qu'association malienne de l'expulsé, vous devez vous faire des soucis parce que le travail vous attend quand même, parce que ça fait beaucoup de Maliens que vous attendez.
Oui, effectivement, et malheureusement, on a un de Maliens qui Alors, les chiffres que vous avez donnés dans notre statistique, c'est encore plus élevé que ça. Suivant du droit de statut de l'AME, à partir du janvier jusqu'à fin juin, c'est-à-dire des premiers trimestres de l'année, on a plus de 6 années qui sont venus dans les conditions de l'État français. On compte seulement, si on compte seulement ceux qui sont venus de l'AME, c'est de la dignité un peu partout. Donc c'est vraiment déplorable comme on a dit tout le monde. Et la situation de la migration aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut qualifier, comment on peut mesurer, comment les États africains ou les États maliens peuvent encadrer ce niveau de la migration. Parce que la migration est en train de construire tous les jours. Vous avez parlé de l'obtention de visa, il y a beaucoup de
problèmes. Alors, Ousmane Diarra, nous avons quelques problèmes avec la ligne qui se dégrade. Nous allons pouvoir vous retrouver dans un instant. Nous partons donc pour la France et retrouver Sadio Diakité. Monsieur Diakité, il y a des Maliens quand même qui reviennent de la France. Il y en a certainement qui reviennent, qui viennent donc, qui retournent au pays de leur propre gré. Il y en a qui sont expulsés. Est-ce que vous vous intéressez au sort subi par ces Maliens dès qu'ils sont sur place au Bercaille.
Alors, déjà, vous savez, les expulsions en France, c'est souvent dans des conditions que s'ils sont reconnus comme maliens ou ils ont un papier malien, ils sont automatiquement expulsés du territoire français sans que souvent les autorités compétentes ne soient au courant. Sauf si il y a des cas où ils ne trouvent pas de papiers maliens avec ces personnes-là. Ils sont obligés d'aller au consulat pour demander les laissez-passer. Il y a eu des moments où les Maliens se sont vraiment ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis des autorités compétentes, comme quoi ils ne peuvent pas donner les laissez-passer à ces Maliens-là qui sont là, si simplement certains, en allant au travail ou en allant voir un parent dans une autre ville, ils sont contrôlés, ils n'ont pas de papiers, on les exclut. Donc, tous ces mécontentements-là sont faits que les Maliens de France ont mis en place. Il y a plusieurs associations de défense des droits des Maliens en France ici. Donc, souvent, les gens partent sans que le Haut Conseil ne soit au courant. Et très rarement, c'est comme ça. On apprend, on viendra peut-être sur d'autres cas, on apprend en même temps que vous que tel Malien a été expulsé et au moment où il se trouve sur le territoire malien. Donc, voilà un peu la situation. Les autorités compétentes communiquent très peu sur les expulsions, à part souvent les autorités françaises pour faire les révélations, ils donnent le chiffre global, mais sans dire très généralement quel nombre de Maliens ont été expulsés. Au niveau de nos États, en tout cas au niveau du Mali, on communique très peu sur les expulsions.
À présent, on va quand même s'intéresser à un dossier brûlant, celui de Moussa Keïta, un autre Malien, un Malien donc expulsé pour, je cite, appartenance à la mouvance islamiste pro-djihadiste. C'est peut-être un sujet délicat. À vous, je pose la question. Ismaël Samasekou, le secrétaire général de l'association Retour Travail Dignité, oui. Le cas Moussa Keïta.
Oui. Oui, bon, vous savez. Et aujourd'hui, les migrants sont en train de s'intéresser, comment dirais-je, les migrants sont victimes du terrorisme. Parce que je vous dis, j'ai un ami.
Victime du terrorisme, ça est visé par le terrorisme, voilà,
visé par le terrorisme. Mm-hmm. Parce qu'ils profitent de la pauvreté, de ces migrants. Parce que vous savez, les. Terrorisme, c'est un réseau, ils ont beaucoup d'argent. Mm-hmm. Donc, ils essaient d'approcher nos migrants donc, pour leur donner des sous et les inciter à faire.
Ou autrement, mettre à profit leur situation précaire.
Voilà, leur situation précaire. Parce que j'ai un ami, même sur le plan dans l'immigration irrégulière, vous savez, j'ai un ami qui m'a dit qu'il a son frère en Algérie. Mais en allant, dans le Sahara, ils ont été interceptés par des djihadistes et il y a eu parmi eux, il y a des migrants qui ont été convaincus par les djihadistes et ils ont rejoint,
Donc ils les ont suivis de leur propre gré.
Sur leur propre gré. Parce qu'on leur a proposé de l'argent, des sommes colossales. Donc comme ça, ils ont abandonné leur aventure en allant avec les djihadistes. Donc c'est pour vous dire que vraiment... C'est très déplorable, vraiment.
Alors, nous allons...
se dégrade de jour en jour, vraiment.
La liaison étant rétablie avec Ousmane Diarra, c'est à lui que nous allons adresser cette question. Alors, Ousmane Diarra, vous qui êtes le président de l'association malienne des expulsés, vous avez certainement suivi le dossier Moussa Keïta, ce malien expulsé, pour appartenance à la mouvance islamiste pro-djihadiste. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce cas-là?
Alors, donc, merci. La question est très bienvenue. Et d'abord, je viens d'entendre que le migrant peut être automatiquement être influencé pour être djihadiste. Je n'en conviens pas, ça peut se faire. Mais la situation des migrants clandestins, c'est moi, en engagement, je pense que c'est quelque chose fabriqué par les États européens et les États africains.
Parce que
l'obtention de visa. L'obtention de visa.
Allez-y, oui.
Oui, je dis l'obtention de visa qui est très difficile. Mm-hmm. C'est pour cela que les gens partent dans le chemin clandestin. Est-ce que vous me comprenez un peu bien?
Mm-hmm. Allez-y. Allô? Allez-y, continuez.
Voilà, donc, comme l'obtention de visa, et en ce moment, les jeunes n'ont pas de choix. Ils veulent quitter dans leur continent. Parce qu'il faut savoir que le continent africain aujourd'hui est pillé par les occidentaux et rien ne marche. Les emplois, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de vrai marché. Et nous sommes confrontés à des djihadistes, à des MLLA au Mali, Shebab en Afrique de l'Est, et les Boko Haram. Donc tout cela, y compris les jeunes diplômés sans emploi, sans parler des jeunes qui n'ont pas été à l'école. Donc, c'est un phénomène qui est très grave. Aujourd'hui, on sait que l'Europe ne veut plus l'Afrique. L'Europe veut le changement. L'Europe est en train de vieillir. Il veut le changement. Mais ce n'est pas le changement avec les Africains. C'est pour cela que vous voyez que l'Allemagne a accueilli beaucoup de milliers de Syriens qui sont rentrés. Et le même moment, ils proposent à l'État africain, dans le sommet de la Valette, pour la réadmission des ressortissants africains. Alors, il y a un fonds colossal qui est mis en jeu. Les pays africains sont en train de se battre pour prendre leur part et pour freiner la migration. Et en ce moment, est-ce que l'État africain a le pouvoir, a la possibilité de créer des entreprises privées, des entreprises, aider les privés pour faire des entreprises privées, essayer de créer des entreprises gouvernementales? Alors, est-ce que l'État africain, l'État malien, peut encadrer ces jeunes ressortissants, ces jeunes Maliens qui veulent partir? Aujourd'hui, partir, ce n'est pas la volonté. L'immigration, c'est une immigration forcée, vu le contexte national même de nos pays.
Ousmane Diarra, on vous retrouve dans un instant. Studio Tamani, on continue avec ce débat dans quelques dizaines de secondes.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Pour ceux qui viennent de nous capter, c'est donc de la condition des Maliens de l'extérieur que nous parlons. Nous étions sur un sujet brûlant, un sujet qui concerne un jeune qui s'appelle Moussa Keïta. Nous avons entendu Ousmane Diarra de l'Association des Expulsés. Et là-dessus, nous avons entendu aussi l'avis d'Ismaël Samasekou. Je crois que nous avons toujours en ligne Sadio Diakité. Voilà. Maintenant, nous allons donner la parole à quelqu'un qui nous semble quand même beaucoup plus proche du dossier. Il s'agit de Sadio Diakité, le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Sadio Diakité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du cas Moussa Keïta?
Alors, comme vous le savez, le jeune Moussa Keïta, j'ai le communiqué du ministère de l'Intérieur sous les yeux, qui disait que c'est un jeune qui était emprisonné. Donc pour des faits de délinquance de droit commun. Et il a fait quand même l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion prononcé le 1er août 2016 à raison de son appartenance à la mouvance islamiste pro-djihadiste. Donc ça, c'est le communiqué officiel du ministère de l'Intérieur. Et comme vous avez dit tout à l'heure, moi je pense que aujourd'hui, en France, depuis un certain moment, tous les attentats qu'on a eu à connaître ici, tous ces gens-là, la plupart en tout cas, c'est des gens qui sont sortis de prison. Donc, l'État français le sait bien, la radicalisation des jeunes qui font très généralement dans les prisons. Et ce jeune Moussa qui vient de sortir, certainement les renseignements généraux, l'État français a, comme on dit, soit des doutes ou c'est des doutes avérés, en tout cas, il a été expulsé vers le Mali. Donc aujourd'hui, les migrants, que ce soit ces enfants nés ici ou qui viennent de l'Afrique, c'est des gens, c'est des gens vulnérables. C'est des gens qui sont, comme disaient les autres tout à l'heure, on a vu les millions, 1 million de personnes qui sont rentrées en Allemagne. Toute l'Europe a mis un point d'interrogation à un certain moment parce qu'on disait que les terroristes pouvaient utiliser ces jeunes-là, vu leur situation, pour commettre des attentats dans les pays européens. Donc, ça, c'est des facteurs qui font craindre à tout le monde. Et aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que Moussa, la justice certainement fera son cours. On saura pourquoi il a été expulsé. Est-ce que ces éléments-là sont fondés ou pas? Mais quelle est la réaction de l'État malien si Moussa a été expulsé vers le Mali? Et quelle est aujourd'hui les mesures prises si il a été expulsé pour des faits aussi graves que le terrorisme? Est-ce que l'État malien a pris le devant pour vraiment être en contact avec ces jeunes Maliens et les demander, et les questionner? On n'a aucune information qui vient de l'autre côté, c'est-à-dire du Mali. Donc vous voyez un peu, nous sommes un peu dans les flous. L'État français, on le sait, ne communiquera pas beaucoup sur ces faits-là. Donc, mais de l'autre côté du Mali, on n'a pas d'autres informations aussi. Alors que la coopération française aussi, on a un ministère des Affaires étrangères qui est là. qui est représenté par l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur du Mali, on ne peut pas être un Malien avec des faits aussi graves et lui ne soit pas au courant normalement. Mais il y a un doute sur ce point-là, et quel a été, en tout cas, jusqu'à où l'État malien est impliqué dans ce dossier-là.
Ismaël Samasekou, une situation largement commentée ces jours-ci au Mali, c'est donc un autre cas. En France, c'est la mort du jeune Adama Traoré qui est mort donc en France après son interpellation par la police. Les circonstances du décès restent à élucider. Les parents du jeune homme interpellent les autorités maliennes. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, vraiment, je déplore vraiment sa mort. Et il faudrait que nos États vraiment essayent vraiment de jouer leur rôle. Parce que vous savez, notre gouvernement est, je dirais pas, est un peu incapable, quoi. Parce que vous savez, dans ce genre de cas, si c'était peut-être la France ou un autre pays de l'Europe, si un de leurs compatriotes, se trouve dans telle situation, vous allez voir tout un monde vraiment qui vont se lever et chercher une solution au problème posé. Mais le cas du Mali, notre gouvernement vraiment, il doit tout faire vraiment pour que les parents vraiment de la victime puissent avoir gain de cause pour la mort de notre compatriote. C'est notre compatriote là.
Ousmane Diarra de l'association malienne des expulsés, les parents du jeune homme, le jeune homme qui est donc décédé en France, il s'appelle Adama Traoré, après avoir été interpellé par la police, ses parents interpellent les autorités. Vous les comprenez?
Oui, effectivement. Ce n'est pas la première fois que la police française a commis des drames envers les Maliens. Je me rappelle, en 2014, il y avait la mort d'un certain Makassa sur l'intervention de la police. Et à Bamako, on a revendiqué, on a essayé de... Bamako, on a interpellé le gouvernement du Mali, et comme la famille d'Adama Traoré est en train de le faire aujourd'hui au niveau de la France et au niveau du Mali. J'ai vu les compatriotes maliens qui se mobilisaient vraiment auprès de la famille. Et ici, au Mali... il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Je n'ai pas vu même une simple déclaration de la part des autorités maliennes ou des associations comme nous qui défendent les droits des migrants. Alors je pense que à partir de ce maintenant, nous sommes tous interpellés. Nous sommes tous interpellés pour pouvoir soutenir les Maliens de l'extérieur. Donc là, c'est une chose qui est très mal passée et vraiment, les mots nous manquent vraiment.
Alors, nous allons partir du côté de Paris pour poser cette question à Sadio Diakité. Monsieur Diakité, comment est-ce que la mort du jeune Adama Traoré est vécue par les Maliens de France?
Alors, la mort du jeune Adama Traoré était à son âme est très très mal ressentie en France ici parce que vu les informations qui circulent, c'est un jeune qui, en fait, lors de cette interpellation, pour la famille, il y a eu une bavure policière. Et par contre, pour l'État français qui parle de problèmes cardiaques, vous voyez un peu la situation. Donc, l'interpellation musclée, on a eu des responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon du Front de Gauche qui parlait même de la façon dont la police française fait ces interpellations. Donc c'est des interpellations musclées donc, qui peuvent aller jusqu'à ce que les drames qu'on connaît aujourd'hui. Donc la famille de M. Traoré a fait des dépôts de plainte par rapport à cette situation-là. La première, c'est par rapport à cette question de violence volontaire suivie des morts d'hommes. Et la deuxième, c'est au niveau des faux et en écriture par rapport à la gendarme qui a pris les PV. Donc pour la famille, il y a eu irrégularité dans l'écriture de ce dossier-là. Donc les deux plaintes aujourd'hui se trouvent au niveau de la justice. On espère que la justice sera rendue pour les jeunes Adama.
Monsieur Diakité,
malheureusement, le...
À ce que je sache, il n'y a pas eu quand même de réaction pour l'instant de la part des autorités maliennes.
Non, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas eu de réaction de la part des autorités maliennes.
Cela vous surprend?
Aucun communiqué. La seule chose qu'on connaît aujourd'hui, c'est que pour pouvoir amener le corps du jeune Adama au Mali, le consulat du Mali a quand même fait un devoir de délivrer des visas à ceux qui veulent participer aux funérailles du jeune Adama au Mali, qui sont des nationalités soit françaises, pour leur permettre d'aller. C'est le seul acte qu'on connaît aujourd'hui au niveau autorité malienne. Il n'y a pas eu de communiqué ni des ministres des Maliens de l'extérieur qui est censé être avec tous les Maliens de l'extérieur, c'est son premier objectif.
Vous attendez à une réaction les jours à venir?
Ben, on n'entend rien de ce ministre-là, honnêtement, on n'entend rien de lui, parce que ce n'est pas le premier drame. Malheureusement, ça ne sera pas le dernier. Les Maliens, vu la situation aujourd'hui partout, il n'y a pas que la France, on tue les Maliens partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis. Cette année, on a eu combien de décès, de morts des Maliens aux États-Unis? On n'a jamais eu un communiqué de la part des autorités maliennes. En Mauritanie, en Algérie, qu'on parle aujourd'hui, il n'y a jamais eu de communiqué. Ce n'est reste que pour remonter les morales des parents, on ne le fait pas. Donc, pour nous, on n'attend rien des autorités maliennes. On peut attendre beaucoup de la société civile, des associations qui se battent nuit et jour, que ce soit au Mali, ou en Europe, ou en Asie, partout où se trouvent les Maliens, les associations qui se battent, avec les amis des Mali, pour rendre justice aux Maliens. C'est la seule chose aujourd'hui qu'on peut vous dire, c'est à ce niveau-là, honnêtement, pour les autorités maliennes, s'ils devraient réagir, ils allaient réagir avec quand ils ont vu, ce n'est pas que quand ils ont vu le corps d'Adama au Mali, ils devraient quand même y réagir. Quand le jeune Moussa a été expulsé, ils pouvaient quand même y réagir. On ne cautionne pas le comportement, si c'est un comportement déviant de la part, par exemple, de Moussa, et de ceux qu'on lui reproche, si cela est vrai, que ce soit au Mali, que ce soit en Europe. Aujourd'hui, le terrorisme, personne ne tolère, personne n'encourage les gens dans cette voie-là. Mais ce n'est reste que l'État malien de prendre acte, de faire le travail d'investigation auprès de leurs homologues européens ou africains pour voir réellement la situation des Maliens. Et c'est là on n'a pas trouvé ça.
Je sens que Ousmane Diarra veut réagir. Vous avez juste une minute, Ousmane.
Oui, effectivement, au niveau du Mali, quand même, je regrette beaucoup ce que mon précédent vient de dire, c'est la vérité. La mort des Maliens de la Mauritanie, on ne peut pas répéter. Donc, vraiment, même s'il n'y avait pas l'action gouvernementale, il devait avoir l'action de la société civile malienne, surtout la famille d'Adama qui est là, même à Bamako. Donc, il devait avoir. Mais ce qui est aussi très, très déplorable, je me rappelle en 2014, à la mort de Magassa par la police française avec un fusil qu'on appelle le stagiaire. Alors, donc, on a essayé de mobiliser la société civile malienne, mais pas de succès, les gens ne sont pas sortis. On est allé même devant l'ambassade de la France au Mali, mais malheureusement, le truc n'est pas abouti. Alors, donc, nous, le dernier mot que moi j'ai à dire, c'est d'interpeller toujours le gouvernement du Mali, le ministère des Maliens de l'Extérieur et la société civile malienne qui soit auprès de ces Maliens, parce que les choses sont compliquées. Encore, après le sommet de la Valette, avec des milliards qu'ils ont mis en jeu, nos autorités, les dirigeants africains en train de monter leur projet, parce qu'il y a 1,8 milliard d'euros, donc ils sont en train de monter leur projet, ils vont barrer la route à des migrants maliens, des migrants. Et je vous assure, d'ici 4-5 ans,
merci, vous verrez que
la liberté de circulation dans l'espace scénario
va venir,
il n'y aura plus.
Voilà, donc ouais. C'est sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce jeudi. Comme invité, nous avons reçu Ousmane Diarra, qui est donc le grand dialogue de ce mercredi, disons, avec Ousmane Diarra, le président de l'association malienne des esprits, Sadio Diakité, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens Européenne de France, Ismaël Samasekou, le secrétaire général de l'association Retour, Travail, Dignité. À la mise en œuvre, il y avait Mamadou Ouattara, régie vidéo, Péting, à la réalisation Issa Fakaba Sissoko, présentation Seydou Pomba. On se retrouve demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.